Bonjour chers auditeurs, Xavier Moreau de Stratpol est la meilleure source d'information sur le conflit en Ukraine si l'on veut sortir de la communication voulue par le Pentagone et obtenir une synthèse hebdomadaire sans avoir à éplucher des centaines de sources. Marié à une Russe, père de famille, écrivain et entrepreneur, Xavier Moreau affiche ouvertement son attachement patriotique aux valeurs qui ont fait de la France le grand pays qu'il est parfois, et aussi son souhait d'une victoire de la Russie face à un Occident qu'il considère comme décadent. Radio Libre vous propose dorénavant en audio accéléré son bulletin de situation hebdomadaire sur le conflit en Ukraine pour tout savoir du front et des répercussions géopolitiques et économiques. Retrouvez tous les épisodes hebdomadaires de Stratpol en cherchant le numéro 16-281 sur radiolibre.ch. Bonne écoute et soutenez le journalisme libre de qualité en faisant un don sur stratpol.com ou radiolibre.ch. Merci.
Revue de presse. Les trouvailles les plus indispensables à écouter pour vous sur Radio Libre.
Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 31 août 2023, c'est notre bulletin numéro 149 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Telegram payant, Paypal et voir comment vous procurer, vous abonner à Géopolitique Profonde, donc que vous avez en format papier ou en format numérique et dans lequel je sortirai, donc le mois de septembre, le mois qui démarre dès demain, un article sur le complexe militaire industriel russe, sur la mésappréciation, on peut donc dire, de l'économie russe par les élites occidentales, ce qui explique la défaite annoncée face à la Russie. Donc également, il y a d'autres articles fort intéressants. On a eu Pierre-Antoine Plaquevent, on a Youssef Indy, on a Laurent Ozon. Donc tous ces auteurs qui sont évidemment appréciés par Stratpol. Voilà. Vous pouvez également, et j'ai vu que ça marchait bien, prendre des cours de russe en ligne avec Logios. Et en revanche, n'oubliez pas d'écrire Stratpol 10. Donc c'est le promo code qui vous permet d'avoir une réduction. Mais maintenant, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec l'économie. Et la première nouvelle, eh bien, c'est grâce à la presse allemande. C'est le magazine Bild. Donc, qui est un magazine très, très important, très connu en Allemagne, et qui nous publie des fuites de conversations entre Scholz et entre Macron. Et donc, c'est sur les questions des sanctions. Et Scholz, d'ailleurs, se plaint auprès d'Emmanuel Macron, on est tout au début de l'opération militaire spéciale, que Vladimir Poutine ne lui parle même pas des sanctions. Et même chose, et Emmanuel Macron aussi, en plein désarroi, lui dit « bah oui, visiblement, c'est pas un sujet qui l'intéresse ». Alors, il faut savoir que le fait de ne pas parler des sanctions, comme je l'ai dit d'ailleurs dans une interview sur Russia Today, c'est la politique qui est suivie par les Russes depuis 2014. Les sanctions sont la responsabilité de ceux qui les mettent. Nous, ça ne nous concerne pas. En revanche, on se réserve le droit de mettre des contre-sanctions où on veut et quand on veut. Et ce qui est surtout intéressant par rapport à ce que dit Bild, c'est que en fait, ces fuites prouvent que ni Scholz ni Macron n'ont eu les équipes qui ont dresser un tableau correct de la puissance de l'économie russe. Et ça, c'est un peu l'intuition que j'avais eue il y a un an et demi, que j'avais aussi pu analyser tout au long de depuis Maïdan, en gros, même avant Maïdan. C'est-à-dire cette méconnaissance profonde des élites de gouvernement françaises. Moi, avant tout, c'était sur la France que je me focalisais, forcément. Mais également, voilà ça, en fait, du côté allemand. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne pour apprécier correctement la puissance de l'économie russe. Parce que ça se voit, ils ont été surpris par la résistance, ils ont été surpris aussi par leur dépendance de l'économie russe, par le poids de l'économie russe, notamment dans le domaine des hydrocarbures, du nucléaire, des engrais, de l'agriculture, en fait, du poids de l'économie russe. Donc ça confirme ce qu'on avait analysé de manière à la fois intuitive, mais en même temps de manière pratique dès février 2015, c'est-à-dire que les sanctions étaient une bonne chose pour la Russie. Et je maintiens que obtenir des sanctions contre la Russie était un des buts de l'opération militaire spéciale de Vladimir Poutine. La Russie a besoin des sanctions, et on va le voir, on le voit déjà depuis le début, on va le voir dans ce bulletin, mais dans les suivants, c'est les résultats obtenus grâce aux sanctions, et bien sûr aux contre-sanctions, sont une véritable providence pour la Russie. Non seulement les gouvernements européens ont mis des sanctions contre la Russie qui les ruinent petit à petit, mais en plus, ils financent la guerre en Ukraine, ils financent l'Ukraine, tout simplement, et le Financial Times souligne très opportunément que les 86 milliards d'euros qui doivent être donnés à l'Ukraine, eh bien, ne font pas l'unanimité parmi les pays européens, y compris d'ailleurs par ceux qui fournissent l'essentiel du financement de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne, parce qu'en fait, l'argent coûte de plus en plus cher. L'Allemagne, comme la France, un peu moins que la France, parce que la France est un pays socialiste surendetté, donc en voie de disparition économique, mais cela dit, tout ça, ça passe par des emprunts. Or, les taux d'intérêt ont largement augmenté, notamment à cause des sanctions, ils lui gèlent des avoirs russes, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, l'euro n'est plus considéré comme une monnaie fiable et n'a pas, bien sûr, la dynamique du dollar qui, quoi qu'il arrive, malgré cette dédollarisation dont nous avons été un des premiers sites à parler en France en tout cas, eh bien, le dollar conserve une certaine puissance grâce à son inertie, ce qui n'est pas du tout le cas de l'euro. Donc, très compliqué de financer l'Ukraine avec les taux d'intérêt qui augmentent. Donc, quand l'Allemagne doit envoyer, si vous voulez, je ne sais pas, 20, 30 milliards pour financer l'économie ukrainienne, acheter des munitions, elle doit les emprunter elle-même à des taux qui sont de plus en plus prohibitifs. Donc, premier problème. Et deuxièmement, ce qu'explique le Financial Times, c'est qu'il faut augmenter les fonctionnaires de l'Union européenne, qui sont tellement utiles. Et on imagine bien que les salaires des membres de la Commission européenne doivent être byzantins, avec notamment quelqu'un comme Thierry Breton, qui a la double mission extrêmement importante pour l'avenir de l'Europe et de l'humanité, c'est-à-dire censurer tout ce qui bouge et trouver des munitions, ce qui est visiblement difficile, pour l'Ukraine. Donc voilà, donc il faut bien sûr payer le parti unique. Encore une fois, c'est l'Union européenne en général, la France en particulier, c'est vraiment l'URSS des années 80. Donc il faut payer les membres du parti unique, et puis le reste, eh bien, c'est des paysans, c'est la plèbe qu'on peut racketter, endetter sur 5 générations, ça ne pose aucun problème. En tout cas, nous verrons bien si ces 86 milliards arrivent à être financés, à côté, bien sûr, des 20 milliards qui sont nécessaires pour un plan d'armement de l'Ukraine sur 4 ans. C'est ça la grande mission de l'Union européenne qui était censée garantir la paix et la prospérité. Puisqu'on est dans les bonnes nouvelles de prospective économique, entre guillemets, eh bien, l'économiste Nouriel Roubini, donc qui est un Américain d'origine iranienne, est connu parce que c'est lui qui avait annoncé la crise de 2008. Donc la crise des subprimes, hein, qui est une crise nord-américaine, qui s'est étendue dans le reste du monde à cause du poids effectivement de l'économie et surtout de la finance américaine dans le monde, donc disparition de Lehman Brothers et des conséquences qui ont duré plusieurs années dans l'économie mondiale, d'ailleurs des conséquences pour certains pays qui ne s'en sont toujours pas remis. J'avais également parlé de Nouriel Roubini, ça devait être en 2015 de mémoire, j'avais fait une vidéo pour répondre précisément aux âneries qui étaient répandues par l'IFRI, notamment Thomas Gomard qui qualifiait la Russie de puissance pauvre, c'était le terme d'un historien Sokolov qui avait publié un livre au début des années 90, et donc ça a été le grand thème de l'IFRI, c'est d'expliquer, et donc je pense aussi pour ça que Macron n'a rien compris à ce qui se passait avec l'économie russe, que la Russie était une puissance pauvre, ce qui n'était bien sûr plus le cas dans la deuxième moitié des années 2010, hein, tout avait été petit à petit restauré, réorganisé. Et donc pour répondre à ça, j'avais utilisé Nouriel Roubini, puisqu'il devait être à Davos, si je me souviens bien, c'était en 2015, et il disait que la Russie manœuvrait extrêmement bien pour se sortir économiquement de la crise. Au contraire d'ailleurs, à l'époque de l'Arabie Saoudite. Donc Nouriel Roubini, c'est quelqu'un qui a de la vision, qui est capable de faire des prospectives. Il n'est pas du tout pro-russe, il est même franchement hostile à la Russie, j'ai vu d'autres déclarations. Mais là, il a donné une interview dans laquelle il annonce des choses extrêmement graves. C'est-à-dire que dans le système bancaire américain, donc qui est capitalisé à hauteur de 2,2 000 milliards de dollars, eh bien, il y a 1,8 000 milliards de dollars de pertes qui n'ont pas encore été réalisées. Donc, c'est-à-dire que le système peut exploser et qu'on peut avoir une nouvelle crise de 2008 qui va secouer la planète entière et principalement, évidemment, l'économie américaine et l'économie occidentale. À côté de ça, ce qu'on voit en Europe, et ça nous est donné par, encore une fois, des statistiques officielles, c'est pas les agents du Kremlin, l'indice des directeurs d'achat, donc le fameux PMI dont parlait d'ailleurs l'économiste Mark Twatty, que j'ai cité déjà plusieurs reprises, donc en Allemagne, est en train de s'effondrer et d'arriver au niveau du Covid. Donc c'est-à-dire que la production manufacturière, c'est-à-dire que l'économie réelle, en fait, en Allemagne, est en train de s'effondrer. Et je rappelle que c'est le moteur de l'économie européenne. À côté de ça, on annonce, alors aussi paradoxalement, parce que en fait, si jamais on va vers une crise, ça va plutôt provoquer l'effondrement des hydrocarbures, mais en attendant, le pétrole est à 85 dollars pour le Brent, donc en fait, il atteint un niveau tout à fait intéressant, y compris pour la Russie, qui, on l'a déjà évoqué, fait des ristournes de plus en plus limitées, parce qu'en fait, il y a une telle demande que, bien, il n'y a plus de raison de faire des ristournes, malgré les sanctions occidentales contre le pétrole russe, et Forbes nous sort un article où il parle d'un baril à 300 dollars. Bon, sachant qu'à mon avis, au-dessus de 150-200 dollars, l'économie mondiale s'effondre, c'est trop cher. Donc on arrive vraiment dans une zone de turbulence, et malheureusement, la France, l'Allemagne, donc l'Italie, les trois moteurs de l'économie européenne, sont particulièrement mal équipés au niveau des élites de gouvernement, qui ne comprennent rien à ce qui se passe, et qui sont obsédés par leur guerre contre la Russie. Voilà. Alors obsédés par leur guerre contre la Russie, mais pas finalement contre le gaz russe, parce que même si, évidemment, les achats de gaz russe à Gazprom ont diminué, ils ont augmenté en ce qui concerne le gaz liquéfié russe. Donc évidemment, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le gaz liquéfié est plus cher, notamment parce qu'il est plus lié au prix du marché, que là, on va avoir une demande qui va augmenter, l'hiver approche. Si l'hiver est clément comme il y a un an, eh bien, on peut peut-être s'en sortir. S'il est froid, ça va être extrêmement difficile, voire gravissime pour les pays européens. Donc voilà, donc la Russie est, selon le Financial Times, le deuxième exportateur de gaz naturel liquéfié à l'Europe. Pour ces raisons-là, évidemment, le discours commence tout de même à changer en Allemagne, puisque là, dans la mesure où c'est un pays encore industriel, contrairement à notre malheureuse France, eh bien, on est plus dans le domaine du réalisme. On s'aperçoit que quand la note d'énergie est multipliée par 4, on perd en compétitivité et que les sociétés émigrent, notamment aux États-Unis, là où le gaz est cher, mais un peu moins cher qu'en Europe. Ce qui fait qu'il y a en Allemagne, contrairement en France, donc des partis politiques représentés au Parlement qui sont des partis de la paix, comme l'Alternative für Deutschland, donc des nationalistes allemands, ou Die Linke, la gauche populaire allemande, hein, ce genre de partis qui s'ils existent en France, ne sont pas représentés au Parlement, et eux, donc, bien sûr, sont contre les sanctions, contre les livraisons d'armes. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez le ministre président du Land de Saxe. Hein, l'Allemagne est divisée en Länder, et donc le Land de Saxe, donc, est dirigé par un chrétien démocrate de la CDU, qui s'appelle Michael Kretschmer, et qui a, une fois de plus, dans une interview qui a été donnée au magazine allemand Focus, déclaré qu'il fallait réparer Nord Stream et qu'il fallait absolument pas renoncer à cette capacité d'avoir une énergie pas chère, qu'il est hors de question de couper définitivement les liens avec la Russie. Hein, ce qui est aujourd'hui la politique de Washington pour être sûr que l'économie européenne ne se redresse pas une fois que la guerre aura été gagnée par la Russie, ce dont tout le monde maintenant est bien persuadé, eh bien, il faut de plus de sanctions, il faut couper le cordon ombilical énergétique entre la Russie et l'Allemagne, et donc eh bien la France et le reste de l'Europe. Donc, encore une fois, le discours est en train d'évoluer et visiblement, si on a ces fuites sur le magazine Bild, donc qui montre que en fait Scholz ne comprend rien à l'économie de la Russie et à la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis de l'économie de la Russie, et ce ministre-président du Land de Saxe, eh bien, ça veut dire qu'en tout cas en Allemagne au moins c'est en train de bouger parmi les élites potentiellement de gouvernement. Notons d'ailleurs au passage que Michael Kretschmer avait été invité en 2019 au Forum économique de Saint-Pétersbourg, ce qui est quelque chose de tout à fait encourageant. Mais c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul en fait, président des Landes, de, notamment de l'Ouest industrialisé de l'Allemagne, a tenté d'entretenir de bonnes relations avec la Russie. Rapidement quelques mots sur la Chine, parce que je suis tombé sur un bon article, alors que j'ai lu sur Russia Today en français, sur le site. Je rappelle qu'il vous faut un VPN pour y aller. Planète VPN, on a un accord avec eux. Mais vous pouvez également aller sur le site en anglais, qui je pense lui n'a pas besoin de VPN. Et donc c'est un article très intéressant qui confirme également ce que j'ai entendu sur plusieurs médias économiques russes. C'est-à-dire que le narratif occidental qu'on entend beaucoup dans les médias économiques, dans les médias d'ailleurs de grand chemin, que la Chine va rentrer dans une ère, on n'ose pas dire récession, mais de stagnation, etc. C'est de la communication anti-chinoise. Déjà, ce genre de discours, moi, ça fait 15 ans que j'entends. Donc, à chaque fois, on explique, ah non, mais là, c'est bon, là, ils sont à un niveau. Bon, pour parler de manière concrète, il y a effectivement des problèmes de chômage. Beaucoup de problèmes sont liés à cette stupide politique du zéro Covid qui a été menée par le Parti communiste chinois jusqu'à la réélection de l'excellent Xi Jinping. Mais là, c'est vraiment la grande erreur qu'il a faite. Hein. Bah, tous ceux qui ont confiné de toute manière, de manière absurde, comme en France, hein, bien sûr, ont détruit une partie de leur économie, et c'est ce qui s'est passé en Chine. Cela dit, perseverare diabolicum, et là, les Chinois en sont enfin sortis, et là, l'économie a vraiment repris, mais évidemment qu'il va falloir du temps pour remettre tout ça sur les rails, mais il faut quand même être relatif. D'après les chiffres, hein, c'est les chiffres en plus de la Banque mondiale, la croissance au deuxième trimestre de l'économie chinoise a été de 6,3%, et la Banque mondiale prévoit 5,6% de croissance pour la Chine en 2023. Et c'est pas 5,6% de croissance sur le PIB français de 2500 milliards de dollars, c'est 5,6% sur un PIB de 30 000 milliards de dollars. C'est aussi bien ça qu'il faut comprendre. C'est un pourcentage. Donc quand vous avez une énorme économie qui en plus croît de plus de 5%, le résultat est quand même considérable. Quand vous avez une petite économie qui croît de 1% ou qui quand même commence à décroître, comme c'est le cas des économies européennes, notamment de la France, là, c'est plutôt là que ça pose un problème. Donc prendre avec circonspection toutes ces annonces alarmistes. Et de toute manière, pour ce qui est de la demande des hydrocarbures, vous avez maintenant l'Inde qui est derrière et qui est un des deux grands acheteurs avec la Chine, notamment des hydrocarbures russes. Parlons maintenant de quelques bonnes nouvelles économiques en Russie. Le Superjet 100, donc qui à l'origine est un avion qui a été conçu autour d'une coopération entre notamment le français Snecma pour la motorisation et les partenaires russes. Suite aux sanctions, évidemment, cet avion ne peut plus être produit et normalement, en 2024, il doit voler pour la première fois avec des moteurs totalement russes, donc les PD-08. Et en attendant, il a fait son premier vol avec la totalité des sous-ensembles, c'est-à-dire une quarantaine, remplacés par des systèmes russes. Et le vol s'est bien passé, donc tout va bien. Donc ça ne veut pas dire que les choses sont encore gagnées. Encore une fois, c'est de l'aéronautique. C'est une grande aventure technologique. Hein. C'est comme la conquête spatiale. Quand le moteur tombe en panne, vous ne pouvez pas garer la fusée ou l'avion au bord de la route et essayer de comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, pour l'instant, sur le projet donc Superjet 100 New, les choses se passent bien. On attend également à partir de 2024, hein, début 2024 normalement, le début de la production en série du MS-21 qui doit remplacer les Airbus A320 et les Boeing équivalents. Donc une bonne nouvelle, encore une autre bonne nouvelle, annonce de la construction d'une ceinture routière autour de la mer d'Azov. Hein, désormais, la mer d'Azov est bien une mer intérieure russe. Une ceinture routière de 1400 km va être construite. Normalement, ça doit être terminé, je crois, en 2028-2030. Donc il s'agit soit de construire des routes, soit de refaire complètement toutes les routes qui ont fait partie, soit du réseau routier russe, soit surtout du réseau routier ukrainien, qui est dans un état épouvantable. Je l'avais expérimenté en 2016, je crois, quand après la mise en service du pont de Crimée, on y était allé en famille. Et là, quand on passait le pont de Crimée, à l'époque, les routes ukrainiennes n'avaient pas été refaites, c'était le safari, hein. C'était assez épouvantable. On voit très bien que Kiev a pillé tout ce qu'il y avait à piller partout dans les territoires ukrainiens, sans rien investir. Et en revanche, alors il paraît que maintenant, j'ai des amis qui sont allés en vacances en Crimée, là c'est comme Kaliningrad, hein. C'est sans doute les plus belles routes d'Europe avec les routes françaises. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et en plus, visiblement, désormais, tous les projets d'infrastructure se tiennent de manière rigoureuse, aux dates de livraison. On en a eu la preuve avec le pont de Crimée, qui était terminé quand même 6 mois en avance. Et on en a eu également la preuve eh bien aujourd'hui, le 31 août, puisque Vladimir Poutine a inauguré 5 jours en avance la fin de la construction du pont sur l'Enissée. Alors l'Enissée, c'est un des plus grands fleuves de Russie, en Sibérie, dans la région de Krasnoïarsk. Hein, c'est la deuxième plus grande région de Russie. Et donc il y avait un vrai problème d'infrastructure dans cette région-là. Et en 2020, et c'est ça aussi qui est exceptionnel, c'est-à-dire que c'est un projet quand même assez très compliqué technologiquement, eh bien en 3 ans, les Russes ont construit ce pont sur l'Enissée. Je crois que j'en avais parlé dans une de mes vidéos, et j'ai l'impression que c'est déjà hier. Alors quand on vit à Moscou, on a pris l'habitude d'avoir les chantiers qui progressent extrêmement vite. Hein. C'était le cas notamment, puisqu'il passe pas loin de chez moi, du MTK. C'est en fait un espèce de RER à l'intérieur de Moscou qui fait le tour de Moscou, qui était construit, je crois, en 3 ans. À peine les premiers travaux ont commencé, qu'il était déjà terminé. Donc ça veut dire que maintenant, on a une visibilité sur la durée des travaux. Et surtout, ça veut dire que même si l'opération spéciale a commencé il y a 1 an et demi, les travaux qui ont été lancés en 2020 sont achevés en temps et en heure, encore une fois, avec 5 jours d'avance. Donc voilà, l'Enissée pourra être franchie par une 2x2 voies moderne, par l'Esso-Sibirsk, hein, c'est un petit patelin qui est à 250 km au nord de Krasnoïarsk, et bien sûr, là où il y a la civilisation, il y a une église, hein. En Russie, c'est comme en France. Donc c'est une excellente nouvelle. Dernière excellente nouvelle, non seulement pour les Russes, mais pour les gens qui veulent visiter la Russie, et je sais que ceux qui regardent Stratpol sont nombreux, le visa électronique qui a été mis en place depuis le 1er août fonctionne extrêmement bien, non seulement avec les pays amis, comme la Chine, l'Inde, etc., mais également avec les pays dits hostiles, enfin ce sont les gouvernements qui sont hostiles à la Russie, mais les populations, et on le sait bien en France, ne le sont pas, eh bien ça fonctionne très bien, et ça a entraîné une augmentation du flux touristique. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du consulat russe pour obtenir ce visa électronique, en fait, d'après ce que j'ai compris. Vous remplissez le formulaire, vous payez et vous récupérez votre visa à l'aéroport. En gros, c'est ce qui se passe. Voilà. Si je me trompe, hein, moi, j'ai plus besoin de visa pour aller en Russie depuis 2013. D'après ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et évidemment, qui ne va pas faire plaisir au régime d'Emmanuel Macron, qui veut empêcher à tout prix les Français de visiter la Russie. Parce que, imaginez ce pauvre Parisien qui vit dans une décharge municipale d'1 million d'habitants et qui débarque dans la ville de Moscou de 13 millions d'habitants. Et à chaque fois, c'est tous ceux qui l'ont fait m'ont dit, mais c'est un choc de propreté, choc de sécurité et choc technologique également quand on commence un peu à habiter, à voir tout ce qui est possible de faire dans cette ville extraordinaire. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre un visa électronique pour visiter Moscou, Saint-Pétersbourg, pourquoi pas Krasnoïarsk, Irkoutsk et Vladivostok, où je me rends normalement jeudi prochain pour Russia Today en français, pour le forum économique précisément du développement de l'extrême-orient russe et de l'Arctique, avec l'excellent ministre Alexei Tchekounkov que nous avions interviewé au forum économique de Saint-Pétersbourg. Parlons politico-diplomatique maintenant. La première nouvelle, c'est la double démission des ministres de la Défense ukrainiens, Reznikov, et anglais, Ben Wallace. Donc Reznikov a été remplacé a priori par un certain Roustem Umeryov. Alors c'est un Tatar, non seulement c'est un Tatar, mais c'est un conseiller de Djemilev. Donc Djemilev est à la tête de l'organisation des Tatars de Crimée, qui est une organisation semi-terroriste et mafieuse, qui a fait régner la terreur en Crimée jusqu'à ce que les Russes libèrent la presqu'île. Et après, c'est eux qui ont notamment fait sauter les lignes électriques pour couper l'électricité en Crimée, boucher le canal de Crimée, tout ça avec bien sûr l'aide des loups gris, les terroristes turcs. Donc ça donne un peu le niveau, mais à la limite, ce qui est plus intéressant, c'est pas tellement le fait que Roustem Umeryov ait des connexions avec le terrorisme Tatar, c'est surtout qu'il était, depuis 2022, à la tête du fonds chargé des privatisations en Ukraine. Donc, comme le souligne d'ailleurs même la presse ukrainienne, en fait, c'est une créature de Yermak, qui est le chef de cabinet de Zelensky, et qui est à cette position-là pour pouvoir également voler tout ce qu'il y a à voler. Encore une fois, on est vraiment dans le régime de République bananière qui vient. Ce qui est plus intéressant, c'est du côté anglais, où là, eh bien, le ministre Ben Wallace, donc, qui était un des faucons, un des types qui est avec Boris Johnson, qui est à l'origine du carnage auquel on assiste aujourd'hui en Ukraine. Hein, rappelons que Zelensky, au bout de 24 heures, il voulait se rendre. Il avait raison, d'ailleurs. Donc, c'est eux qui ont jeté de l'huile sur le feu. Eh bien, démissionne. Alors, il avait annoncé cet été en disant qu'il voulait quitter la politique. Et il est remplacé par un certain Chaps, qui, lui, n'est pas un militaire. Wallace était passé par Sandhurst. Il avait servi 8 ans et Sandhurst, c'est comme le Saint-Cyr français. Alors que Chaps, non, c'est plutôt un spécialiste de l'énergie. D'ailleurs, il s'était rendu en Ukraine récemment pour inspecter les infrastructures énergétiques en Ukraine. Donc, peut-être une chance d'avoir quelqu'un de moins fanatique que ne le fut Ben Wallace. Intéressant en tout cas, et tout ça, bien sûr, hein, dans le cadre de l'échec, en tout cas pour l'instant, de la contre-offensive ukrainienne. Diplomatie toujours, rencontre à Moscou entre le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov et son homologue turc pour préparer, a priori, si on en croit la presse, la rencontre entre Vladimir Poutine et Recep Erdogan à Sochi le 4 ou 5 septembre. Donc il va être bien sûr question de l'accord céréalier. Et d'ailleurs, Sergei Lavrov a rappelé les exigences russes dans ce domaine. En tout cas, bon, visiblement, malgré les quelques remous qu'avait causé la libération des terroristes d'Azov par Erdogan, eh bien, comme je l'imaginais, Erdogan et Poutine sont des pragmatiques, la raison d'État avant tout, et les choses semblent aller dans le bon sens. Politique toujours, Nicolas Sarkozy persiste et signe. Après l'interview dans le Figaro, l'interview sur LCI, eh bien, il confirme ce qu'il dit. Alors, beaucoup de précautions oratoires. Hein. C'est comme quand, au moment du Covid, on disait « je ne suis pas contre le vaccin, mais je ne veux pas me prendre un coup d'ARN messager ». Eh bien là, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il dit « oui, la Russie a eu tort en Géorgie, la Russie a eu tort en Ukraine ». Mais bon, comme a dit le général de Gaulle en janvier 1964, lorsqu'il a reconnu la Chine communiste, hein, nous reconnaissons ce qui existe, ce qui est. Donc, c'est pas comme si on avait le choix. Donc, c'est une politique réaliste. Et d'ailleurs, il y a eu un article assez intéressant de Luc Ferry qui a dit la même chose en disant d'ailleurs, c'est pas comme si la contre-offensive kiévienne avait donné des résultats. Donc voilà, donc ça aussi, c'est un signe, hein, comme ce qu'on observe en Allemagne, c'est que je trouve que Sarkozy, d'ailleurs, peut-être est-il, malgré ses dénégations des ambitions de retour à la tête de l'État, je pense qu'il se place assez intelligemment. Et il a une carte à jouer parce que je sais que ça fait hérisser le poil de beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, mais il a été bon sur la Russie pendant son quinquennat, j'en ai été le témoin. Alors ces déclarations, évidemment, ont rendu fous les gauchistes et les néoconservateurs français, au premier rang desquels François Heisbourg, donc, qui est membre de la Fondation pour la Recherche Stratégique, donc c'est le think tank du ministère de la Défense français, think tank d'État. C'est grâce à ce think tank que vous retrouvez également des flèches comme Bruno Tertrais, que le ministère de la Défense n'a absolument rien compris à ce qui se passait, militairement parlant, en Ukraine, depuis le début de l'opération militaire spéciale. Mais ce qui est intéressant aussi avec ce François Heisbourg, c'est que là, il nous a vendu, donc au début du conflit, que le premier approvisionneur de chars de l'Ukraine, c'était la Russie, puisqu'on était avec Oryx, hein, la référence de Goya, de Titelman. On était sur des nombres de... Dès qu'il y avait un T-72 qui brûlait, c'était un char russe. Et puis, les Ukrainiens s'emparaient dans les ventes de chars. Et alors après, on s'est demandé pourquoi, tout d'un coup, à partir de la fin de l'été, ils ont commencé à réclamer des centaines de chars, alors que les Polonais et les Tchèques, les Slovaques leur en avaient déjà livré 300. Et là, ils ont commencé à demander des chars Abrams, des Challenger, même des Leclerc, ce pauvre ex-DCRC qui aurait mieux fait de rester chez lui. Et bien sûr, du Léopard 2. Et maintenant, même ce vieux Léopard 1 qui vient essayer de boucher les trous. Tout ça, évidemment, c'était un énorme bobard, comme d'habitude. Hein. François Heisbourg racontait n'importe quoi, comme il a raconté n'importe quoi à l'époque des armes de destruction massive. Puisque, en dehors d'Oryx, je l'ai mis sur Twitter, mais en dehors d'Oryx, donc la source de l'intoxication occidentale sur ce qui se passe réellement en Ukraine et de la désinformation, c'est l'International Institute for Dies. Donc c'est un organisme basé à Londres, je crois, qui fournit des études, donc, et dont fait partie François Heisbourg. Et donc quand, en 2002, on est venu nous vendre les armes de destruction massive, c'était François Heisbourg qui s'en occupait. Alors le lien, d'ailleurs, n'est plus valable sur le site de cet institut, mais heureusement, il y a des archives, et donc j'ai pu récupérer le lien, donc c'est trop tard, vous ne pourrez pas l'effacer. Et donc, de la même manière que Heisbourg a raconté, nous a désinformé en 2002 sur les armes de destruction massive en Irak, il nous désinforme sur la situation en Ukraine avec la Russie. C'est toujours les mêmes, et ce qui est terrible, c'est que la presse, évidemment, est aux ordres et répète, sans jamais remettre en question, les affirmations de quelqu'un comme François Heisbourg. Donc ce François Heisbourg, en fait, c'est l'instrument néoconservateur et gauchiste de Macron pour nous entraîner dans leur sale guerre contre la Russie, qui ne nous concerne pas. Encore une fois, cette guerre ne concerne pas la France, ni les Français. Terrorisme maintenant, mais rapidement, les Russes ont appréhendé un nouveau groupe terroriste qui s'est infiltré à partir de l'Ukraine dans la région de Bryansk. Donc ils ont montré les armes qui ont été capturées et également les cadavres floutés des terroristes. Mais ça, encore une fois, sur Stratpol, on ne montre pas ça. Selon armement, Washington a annoncé une nouvelle aide militaire de 250 millions de dollars. C'est, en fait, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, c'est très bien dit sur le site de Russia Today en français. C'est-à-dire, bon, c'est aucune surprise. Mais si les États-Unis arrêtent cette aide régulière, il n'y a plus de munitions et la guerre s'arrête. Évidemment qu'à Washington, alors que, en fait, on est rentré dans la campagne électorale des présidentielles, on n'a pas envie que la Russie mette une raclée à l'OTAN trop rapidement et trop facilement. Donc voilà, c'est un non-événement, ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Plus intéressant, c'est la presse ukrainienne qui a montré les maquettes produites par l'industrie métallurgique, enfin en tout cas ce qu'il en reste ukrainienne. Donc c'est d'ailleurs l'oligarque Akhmetov, hein, celui qui avait permis à Kiev de conserver le contrôle de Mariupol et d'y installer Azov en 2014. Donc c'était Akhmetov en fait qui contrôle toute cette région, qui a beaucoup perdu bien sûr au fur et à mesure que la Russie a avancé, notamment la perte de Mariupol, hein, évidemment. Le deuxième port ukrainien est le premier port industriel ukrainien, 20% du PIB ukrainien. Et donc là, il construit des leurres, en fait, mais vraiment des copies parfaites des systèmes de radar, des systèmes d'artillerie. Donc il faut voir en quelle quantité c'est fait, mais c'est assez intéressant, surtout que si vous vous souvenez, quand j'avais fait ma vidéo sur la guerre des drones, j'avais expliqué qu'un des moyens de contourner les attaques de drones, c'était évidemment l'utilisation de leurres. Les Russes ont utilisé beaucoup de leurres en Syrie, ce qui a rendu d'ailleurs, ce qui était un problème pour les Bayraktar. Et donc là, la plupart du temps, les leurres, en fait, c'est des chars gonflables. Mais maintenant, évidemment, avec l'amélioration des systèmes d'observation, un char gonflable peut être décelé. Et là, on a vraiment une maquette parfaite. Comment les Russes vont s'adapter à ces leurres, ça va être intéressant. Mais ça, voilà, ça c'est intéressant comme armement. Et il faut bien reconnaître, c'est qui est bien. Ils ont mis le paquet parce que effectivement le Lancet, hein, le drone suicide russe, fait un véritable carnage dans le matériel ukrainien. C'est maintenant reconnu dans la presse ukrainienne, dans la presse anglo-saxonne. Ça finira par arriver dans la presse française, sans doute dans un ou deux mois. Peut-être même que Michel Goya et Titelman finiront par en parler. Revenons un peu sur les missiles. Alors je remercie à tous ceux qui m'ont envoyé d'ailleurs des fiches pour permettre de préciser ce que j'avais dit la dernière fois, à la fois sur les missiles air-air russes et les missiles air-sol anti-char russes également. Hein, je vous rappelle, j'avais répondu à Titelman sur plusieurs âneries qu'il avait racontées, notamment sur le fait que le K-52 est un hélicoptère qui avait extrêmement déçu, ce qui est totalement faux. C'est encore une fois dans la presse, y compris la presse anglo-saxonne. Et surtout, ce qui est important, c'est l'aéronef plus le missile. Et donc, j'avais dit que le Vikre permettait de tirer 12 km. Et en fait, après vérification, il tire à 10 km, ce qui est déjà exceptionnel. Hein, ça permet au K-52 d'être à un peu moins de 10 km du front pour taper les premières lignes d'assaut de chars. C'est d'ailleurs ce qui est fait en permanence, encore une fois reconnu dans les médias anglo-saxons. Mais en faisant mes recherches, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait également un autre missile qui, lui, porte jusqu'à 15 km, donc qui s'appelle le Elmur, donc en russe Izdiele 305, donc qui est un missile qui est entré en service en 2022 et qui lui permet bien de taper encore 5 km plus loin. D'ailleurs, son importance a été soulignée non seulement par Forbes, mais également par le M6. Hein, le M6 a une chaîne Twitter où il balance des informations régulièrement. Et donc, je crois que c'était au mois de juillet, l'efficacité donc du couple K-52 Elmur avait été soulignée. Et bonne nouvelle pour les amis de la Russie, le K-52 sera bientôt doté d'un nouveau missile qui s'appelle le Hermes A, donc qui est une adaptation pour les hélicoptères, d'un missile anti-char qui permet de taper entre 20 km à 100 km. Alors, quelles seront ses performances exactes avec le K-52, on ne sait pas, mais ça va contribuer à accentuer encore la domination aérienne de la Russie sur le champ de bataille. Missile toujours, donc cette fois missile air-air. Comme j'avais expliqué la dernière fois en réponse à Titelman, les radars russes sur Sukhoi 35S et sur Sukhoi 57 permettent de tout capter à 400 km, donc bien au-dessus des capacités des MiG-29, des Sukhoi 24, au-dessus bien sûr du F-16, mais la question que je posais, c'était sur la réelle capacité de la Russie à pouvoir frapper à une telle distance et quelle réponse pourrait mettre l'OTAN. Donc plusieurs d'entre vous m'avaient répondu, mais envoyé en plus des fiches techniques de sites français, donc on peut pas dire que c'est la main du Kremlin. Et effectivement, le R-37M permet de taper au moins 400 km, sachant que moi, côté russe, hein, j'ai trouvé des fiches techniques où il porte à 400. Donc en fait, entre 3 et 400 km. Et après vérification, et là encore, si par hasard je me trompe, n'hésitez pas à m'envoyer la fiche technique qui corrigera, il n'y a pas d'équivalent côté de l'OTAN. Donc même s'il livre des F-16 avec des missiles les plus performants, parce qu'à mon avis, ils ne feront pas de peur que les Ukrainiens les revendent aux Russes ou qu'il y en a un qui tombe et qui soit récupéré par les Russes. Eh bien, en fait, ça laisse toujours une large domination en quantité et en qualité par l'aviation russe. Et j'avais oublié de le dire la dernière fois, le R-37M a aussi un gros avantage, c'est qu'il vole à Mach 6, c'est-à-dire qu'il est hypersonique. Dernière nouvelle sur l'armement, donc là on est plutôt dans la protection. Des photos aériennes ont été publiées qui montrent que eh bien, le pont de Crimée va avoir une espèce de filet de tablier tout au long des piliers, en fait, pour empêcher les drones marins ou sous-marins. J'allais dire ukrainien, mais en fait c'est britannique, de s'en prendre au pont de Crimée comme ça avait été le cas. Donc enfin, une solution a été trouvée. Donc on verra ce que ça donne, on verra si les Britanniques sont capables de trouver une réponse et de pouvoir continuer les actes de terrorisme contre le pont de Crimée. Avant la carte militaire, considération militaire générale. On observe une multiplication des attaques de drones en grande quantité sur toute la Russie et dans la profondeur, voire dans la grande profondeur. Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que ces attaques n'ont aucun impact sur le terrain, parce que ce qui est détruit, en fait, ne change pas du tout la donne sur le terrain. En revanche, ça fait des images quelquefois impressionnantes, et puis ça permet d'alimenter cette idée de Zelensky en disant « nous avons amené la guerre sur le territoire russe ». En fait, ce sont des actes soit de guérilla, soit de terrorisme, hein, ça dépend comment on se place, mais avec une efficacité minimale. Mais cela dit, point de vue de la communication, ça peut être pas mal. Ça a été le cas notamment là, dans la région de Pskov, on le verra sur la carte, où des drones sont tombés sur un aéroport militaire et ont détruit un réservoir de carburant, ça c'est sûr, ça se voit sur les images. On a annoncé également que 4 Ilyushin 76, donc c'est des avions de transport, notamment c'est des avions utilisés pour les troupes aéroportées, hein, il y a une unité aéroportée dans la région de Pskov. Et donc on a annoncé au début qu'il y en avait 4 qui avaient été endommagés, voire 2 détruits, et finalement d'après les photos de ce titre qui ont été publiées, finalement les dommages seraient assez mineurs, donc on ne sait pas. Peut-être que les Russes d'ailleurs aussi, s'ils n'ont pas mis leurs avions sous protection, c'est aussi qu'ils utilisent, comme les Ukrainiens, des maquettes, c'est pas impossible. Bon, en tout cas, ce sera difficile à savoir. Ce qui est clair, c'est que les Ilyushin 76 ne sont pas utilisés sur le front ukrainien. Il y a un avion de transport comme ça, ce serait bien sûr immédiatement abattu par la DCA ukrainienne, toute médiocre et consommée qu'elle soit. Donc, mais cela dit, attendons-nous à avoir de plus en plus d'attaques de drones, maritimes, pourquoi pas terrestres et surtout aériens. La question revient souvent sur le nombre de pertes russes ou ukrainiennes. Et sur le côté ukrainien, on a eu un moment intéressant. C'est un des opérateurs téléphoniques kievien, donc qui s'appelle Kievstar, a proposé une campagne de soutien aux morts de l'armée ukrainienne, et donc vous pouviez envoyer sur les anciens numéros donc des soldats morts, hein, Diakolo, donc je crois que c'est comme ça que ça se dit, merci en ukrainien, merci de s'être sacrifié pour Zelensky. Et donc dans le clip qui était proposé, à un moment ils mettent 400 000 soldats ukrainiens ne pourront plus jamais répondre au téléphone. Donc évidemment, Kievstar a effacé le clip quand ils se sont rendus compte de la bévue, mais ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre de 400 000, c'est celui qui avait été donné par le colonel McGregor, on s'en souvient, notamment dans l'interview que j'avais recommandé de regarder, elle est disponible sur Twitter, sous-titre en français, interview donnée à Tucker Carlson, il annonçait 400 000 morts d'après les études des photos satellites en fait, des cimetières ukrainiens. Donc ça veut dire que eh bien, ce chiffre de 400 000 morts semble se confirmer. Autre information intéressante qui nous vient d'un article du Monde, écrit par Emmanuel Grinspan, qui est en fait interviewé dans le train qui amène les permissionnaires ukrainiens sur le front du côté de Kramatorsk, hein, donc c'est la dernière ligne de défense ukrainienne dans le Donbass, et qui donne une image, et encore une fois, c'est Le Monde. Et c'est Emmanuel Grinspan, donc, qui est un journaliste plutôt réputé russophobe. Et là, il décrit en fait la situation réelle des permissionnaires. Déjà, on apprend qu'il y en a, c'est leur première permission depuis un an et demi, qui sont extrêmement choqués par le fait que les gens sur l'arrière, notamment Kiev, ne comprennent pas ce qui se passe sur le front. Et ça, en fait, c'est ce que j'avais expliqué, c'est le marathon de propagande, comme les Russes appellent ça, tous les jours, en permanence, qui explique que les Russes sont en train de perdre la guerre. Et c'est ça qui est très grave. Donc ce qui est intéressant aussi, hein, c'est comme la déclaration de Sarkozy, les déclarations de la presse allemande, c'est que petit à petit, même dans la presse française, qui est la plus soumise aux injonctions de Washington, eh bien, on commence à avoir la vérité qui filtre, parce que le mensonge est tellement énorme qu'il peut pas que les digues commencent à succomber. Donc voilà, article intéressant pour ceux qui sont abonnés au Monde. Hein. Merci à mes amis qui me l'ont envoyé. Voilà. Dernier point, la vignette que vous avez vue, eh bien, merci encore Étienne de l'avoir faite. J'ai appelé ça Thermopyles 2.0, hein, bien sûr la bataille des Thermopyles, c'est la défense de Sparte dans ce défilé qui a permis de contenir l'avancée des troupes perses. Donc ils étaient 300 Spartiates sous les ordres de Léonidas et c'est devenu un espèce de mythe, hein, qui était repris en bande dessinée, en film, en dessin animé, etc. Et là c'est vraiment ce à quoi on assiste du côté russe, parce qu'en plus on commence à voir les chiffres des troupes russes qui s'opposent donc aux troupes ukrainiennes. Elles sont en fait largement inférieures. Et notamment les chiffres qui ont été donnés par Yuri Podolyaka, qui est encore une fois quelqu'un de très sérieux, qui a plutôt tendance au pessimisme. Il expliquait que face aux, en gros, 50 000 hommes sur le front de Zaporogé qui ont été déployés par Kiev, en face, il y a 20-25 000 soldats russes, pas plus. Et ça explique la grande inquiétude si, maintenant qu'on observe du côté kievien, qui parle d'une réserve de 200 000 hommes, on parle de 200 000 hommes dans les médias kieviens, qui seraient prêts à tomber sur l'une ou l'autre des parties du front dans le cadre d'une contre-attaque sur le modèle de la bataille de Koursk. Bon, encore une fois, je reste prudent, mais cela dit, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'appelais ça les Thermopyles, c'est-à-dire que les Russes tiennent l'armée de l'OTAN avec des effectifs près de deux fois inférieurs. On est toujours ce rapport, depuis le début en fait de l'opération militaire spéciale, les Russes attaquent à 1 contre 3, ils s'emparent de plus de 100 000 km² de territoire, et là ensuite on a l'OTAN qui fournit tout ce qu'il peut à l'Ukraine, et la Russie qui résiste avec un excellent travail de génie, hein, le génie au sens militaire du terme, avec une supériorité aérienne, une supériorité de la DCA, mais tout de même le soldat russe qui se bat en infériorité numérique et qui se bat victorieusement. Voilà. Je suis très impressionné. Donc ce sont nos Spartiates à nous. Mais passons maintenant à la carte militaire. Nous revoilà sur la carte militaire, donc on va commencer par les bombardements dans la profondeur, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc Pskov, c'est ici, vous voyez, c'est à 800 km de la frontière ukrainienne, donc ça veut dire plusieurs choses. Soit les drones qui ont été utilisés, en fait, ont été utilisés du territoire russe. Il y a énormément en fait d'agents ukrainiens sur le territoire russe, tout simplement parce que bah, les Russes et les Ukrainiens, c'est la même chose, donc c'est facile de s'infiltrer, donc ça peut être ça. Ça peut être également une attaque, donc certains ont dit, de la part de l'Estonie, parce que l'Estonie est toute proche, mais honnêtement, je pense pas que l'OTAN oserait faire ça, donc moi j'y crois pas trop. Je pense que c'est donc soit une opération qui est menée de la région à partir d'un camion ou d'ailleurs, ou alors une opération qui est menée avec un drone qui était de toute manière conçu par les Britanniques ou les Américains, et qui est guidée par satellite sur des objectifs qui sont également repérés par les services occidentaux. Donc ça n'a pas d'impact militaire, ça n'a aucun impact militaire sur la situation en Ukraine, mais ça permet évidemment de faire parler Dourakovlev ou le colonel Goya. Et encore plus, bien sûr, Xavier Tittleman. Les Russes, eux, continuent régulièrement des attaques sur les infrastructures critiques kieviennes et ont fait sauter visiblement un dépôt de munitions. Alors, c'était, paraît-il, un supermarché, donc près de Kiev. Et ce qui prouve là aussi que le renseignement russe, je l'avais déjà dit, est excellent, que ce soit l'enseignement humain, à mon avis, là, c'est plutôt du renseignement humain, ou bien sûr l'observation satellite qui donne d'excellents résultats. Tentative d'attaque toujours par des barges rapides en mer Noire. Et là, une fois de plus, l'aviation russe en a découpé un en deux. Donc c'est beaucoup de risques, hein, tout ça pour faire des opérations de débarquement TikTok, comme la semaine dernière à cet endroit près de Sébastopol. TikTok toujours, opération de débarquement sur la rive gauche du Dniepr, au même endroit d'ailleurs qu'il y a quelques semaines, du côté de Kozachka, la guerre ici, là, je crois que ça s'appelle, et je crois également dans cette zone-là. J'hésite même à en parler tellement ça n'a aucun impact sur la situation militaire. Évidemment, là où on est dans les vrais combats, c'est toujours sur le front de Zaporogé, donc à cet endroit-là, où l'OTAN met vraiment le paquet pour essayer de prendre au moins Tokmak, hein, Melitopol, c'est même plus la peine d'y penser, Berdyansk, Mariupol, tout ça c'est terminé, mais au moins de prendre une ville qui soit un nom sur une carte qui est un peu un peu d'envergure. Malheureusement, pour les Kieviens, tout ça ne marche pas. Ils ont annoncé absolument sans fondement qu'ils avaient pris Rabotino. Non, ils sont au nord de Rabotino. Les Russes sont au sud. Et de toute manière, au milieu, c'est un champ de ruines et de bombes qui tombent en permanence. Les Kieviens, d'après les informations qu'on a, n'envoient plus de véhicules blindés parce qu'ils se font détruire immédiatement. Ils essaient d'envoyer des petites unités à pied qui traversent les champs de mines et qui sont la plupart du temps pulvérisées par l'artillerie russe. Ils ont également essayé d'élargir le front à cet endroit-là, mais ils ne sont toujours pas arrivés sur la ligne de défense russe principale qui est sur les hauteurs, et les Russes ont même pu contre-attaquer à cet endroit-là. Donc en fait, il n'y a absolument aucune percée, et encore une fois, les avancées ne sont pas des avancées, ça fait juste que les troupes ukrainiennes se trouvent dans une cuvette où ils se font détruire, littéralement, par l'artillerie russe. Il se passe à peu près la même chose du côté du front sud de la République populaire de Donetsk, du côté Staromoïskoïe et Orajaïe. Les Ukrainiens sont dans une cuvette, pareil, ils envoient des petites unités appuyées par l'artillerie, ils n'osent plus envoyer des véhicules blindés, et ils se font écraser par l'artillerie russe. Donc là aussi, ça n'a pas bougé. On a appris aujourd'hui, alors je dis ça, mais c'est pas confirmé, que les Russes auraient pris définitivement Marinka, donc les zones qui leur manquaient, et s'apprêteraient donc à se regrouper pour donner l'assaut sur ces petits villages-là, dans le but de s'approcher jusqu'à la prochaine localité significative, qui est Kourakovo, à cet endroit-là. Si les Russes arrivent à faire ça, ça rebat les cartes complètement sur le front sud de la République populaire de Donetsk. C'est-à-dire que Ougledar risque même d'être encerclé, ça va provoquer un grave problème d'approvisionnement. Voilà. Donc c'est pas confirmé, mais ce sera une excellente nouvelle, évidemment, pour les Russes. Avdeïevka, tentative d'avancer également des troupes russes, sans résultat pour l'instant. Ici, comme la semaine dernière, c'est les Russes qui ont l'initiative, qui font une hécatombe du côté de Kleshevka, à cet endroit-là. Les unités Azov ont tenté de lancer une offensive vers Andreevka, ils se sont fait pulvériser littéralement par la puissance de feu russe. Aucune progression de Kiev au nord de Bakhmout. Et ici, même si les Russes annoncent avoir pris des positions ukrainiennes, pour l'instant, je ne vois pas d'avancée significative, y compris là, du côté de Kupiansk, qui paraît qu'ils avancent, mais j'ai toujours pas mis Sinkovka comme faisant partie des zones prises, parce que je n'en ai pas trouvé la confirmation. Voilà, donc on en est au jeudi 31 août 2023. La question qui se pose maintenant, c'est les Russes vont-ils être capables de lancer une grande contre-offensive, une fois que celle de Kiev aura définitivement échoué? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à Géopolitique Profonde, à regarder en description comment vous pouvez nous aider. Et inscrivez-vous, ça c'est complètement gratuit, sur Telegram, Twitter, VContact. Encore une fois, je mets ces vidéos sur les deux nouveaux supports, VContact et Twitter. Donc n'hésitez pas à y aller et à faire circuler. C'est tout pour ce jeudi. Les nouvelles économiques sont bonnes, les nouvelles militaires sont bonnes. Courage, on les aura.
Radiolivre.ch 24h sur 24, pour vous.